Martine Bazin publie La Bergère, c'est son premier roman.
Marie La Bergère, c'est le premier roman effectivement de Martine Bazin et qui est paru à l'édition à façon, l'édition de Fort-Calquier. Nous allons y revenir et j'ai le plaisir d'accueillir Martine Bazin. Bonjour Martine.
Bonjour.
Nous allons parler avec vous de cette passion pour l'écriture et puis de ce livre particulier qui nous fait plonger dans les années 70 en Haute-Provence. La Haute-Provence s'appelait alors les Basses-Alpes. Pour notre département, le 04, et c'est une histoire qui mêle tout simplement le développement rural à un polar, un véritable polar. Marie La Bergère, c'est un personnage que vous avez créé ou qui existe ?
Non, c'est un personnage que j'ai créé entièrement.
Et donc, une personne qui est née à Paris, qui vit à Paris dans les années 60 et 70, dans une famille plutôt aisée, qui a commencé une vie professionnelle dans l'univers de la banque, rien à voir avec les moutons et les chèvres en l'occurrence. Elle découvre par hasard la Haute-Provence et elle va s'y installer, comme beaucoup de néo-ruraux à cette époque.
Oui, c'est exact. Marie, en fait, ne venait pas d'un milieu aisé. Son père travaillait chez Renault, donc c'était un milieu plutôt
modeste.
Modeste. Et comme beaucoup de personnes à cette époque-là, ils ont eu envie d'un changement. La vie parisienne ne leur convenait plus et c'est ce qu'on a appelé à l'époque le retour à la terre. Donc, beaucoup de jeunes sont venus dans la région de Bannon et puis ailleurs aussi, certainement, élever des chèvres et des moutons et voilà, changer de vie.
Alors,
c'est à ça que je fais allusion un petit peu dans mon livre, à ce contraste entre la vie urbaine et la vie qu'ils ont trouvée en arrivant dans la région.
Alors Marie La Bergère, elle est belle comme un cœur, elle est très attirante et en même temps, elle est au cœur de ce livre, évidemment, parce qu'elle va mourir, on le sait assez rapidement. Et tout l'objet de votre livre, c'est de se dire comment est-elle morte et qui l'aurait tuée. C'est un polar ?
Oui, c'est un polar. C'est sa beauté qui la tue, en fait. Puisque, vu la façon dont elle est assassinée, c'est le drame de la jalousie, on va dire. Voilà.
Alors, on n'a pas de véritable réponse à la fin du roman, mais par contre, on a des images, on a des sons, on a des odeurs qui viennent, et puis c'est surtout toute une galerie de personnages que vous avez peut-être imaginés, mais peut-être aussi connus.
La plupart des personnages sont imaginés. Le seul personnage qui se rapproche un peu de la réalité, c'est Jeanne, la boulangère, qui a existé et qui a tenu ce commerce toute sa vie, quoi. D'ailleurs, quand j'ai écrit ce livre, ce qui m'a un peu poussée à le faire, c'est de mettre en lumière ces gens qu'on ne connaissait pas, mais qui faisait vivre le village. Et puis aussi, j'évoque les bergeries de pierre dans la montagne de Lure. Moi, j'ai appelé les constructeurs de l'extrême, quoi, parce qu'il fallait vraiment une volonté farouche pour aller construire là-bas.
Et puis des connaissances absolument empiriques et pas du tout des connaissances en architecture ou en logistique. Non, on met les pierres sèches les unes sur les autres et ça tient. Et ça tient pendant des siècles.
Oui, et elles tiennent encore, elles existent encore, elles sont toujours aussi belles.
Vous avez parlé de Jeanne, c'est effectivement un personnage très attachant parce qu'elle, elle a un cœur énorme. Oui. Elle anime son village. Plus que son commerce, son village et ses amis passent avant son commerce. Elle se donne entièrement à sa famille également et elle prend sous son aile aussi, ce ne sera pas la seule, elle prend sous son aile cette jeune Marie.
Oui, elle l'aide.
Elle l'intègre.
Elle l'intègre, oui.
Les autres personnages que l'on retrouve dans votre livre, il y a évidemment ce couple de boulangers avec Jeanne et André, son mari. On trouve aussi des gens assez étonnants, Raymond par exemple, et puis César qui est un ancien truand qui est au vert, c'est le cas de le dire.
Oui.
Il arrive de Marseille et il s'est mis au vert et il a découvert quelque chose d'incroyable, c'est la beauté, la bonté des chèvres. Il devient berger et c'est lui qui va guider, qui va initier Marie vers ce métier incroyable qui est berger.
Au métier de bergère d'ailleurs, je pense que c'est pour moi le personnage le plus attachant du livre César, parce que lui vraiment part de la ville, quoi. Il ne connaît pas du tout la région, il vient ici pour une partie de chasse et il en repart plus. Il est emballé par la montagne de Lure, tous ces espaces sans clôture, avec tout ce gibier qui se promène en liberté, enfin, et je pense que César est pour moi le personnage le plus attachant.
Alors il a un joli nom, c'est vrai, César, et en même temps il a un vécu particulier quand même, parce que bon, on se rend compte au fur et à mesure que l'histoire avance qu'il a vécu des choses un peu, oui, difficiles, qu'il a été truand sur les bords, même parfois complètement,
oui,
et qu'effectivement il a découvert sa vie, il a découvert quelque chose, et Marie vient un petit peu couronner cette découverte de la nature et de la Haute-Provence.
Oui, César, parce que César a un vécu tout court, je dirais. Il est allé en prison, il n'est plus très jeune, et quand il fait ce choix, il est déterminé, malgré des conditions difficiles, puisque j'en parle dans mon livre. Et quand il vient dans la région, il n'a pas de domicile, il dort dans sa voiture, il dort dans les granges. Marie, elle, c'est, je dirais, pour lui, la cerise sur le gâteau, quoi. Quand il voit cette fille très jolie, attirante, dans ma tête, il en est un peu amoureux, quoi.
Je le dis dans le livre,
mais bon, il se dit, si je lui fais des avances, je vais l'effrayer et je vais définitivement la perdre. Donc, il préfère être un bon ami. Tout simplement.
Alors il y a une scène qui est quasiment une scène de film où César emmène Marie à Marseille, donc ils sont tous les deux sur leur 31,
ouais,
et ils prennent la voiture. C'est pas n'importe quelle voiture, c'est une traction avant, et la traction avant, je vous rappelle quand même, si vous connaissez un petit peu l'histoire des truands marseillais, c'était leur véhicule préféré, parce que ça allait beaucoup plus vite que les véhicules de la police. Donc c'est une réminiscence de son passé de truand. Raymond, il débarque à Marseille, il lui fait visiter le vieux port. Alors elle ne connaissait pas, elle est toute émerveillée par ce qu'elle voit, mais par contre lorsqu'il rentre à Somane, c'est là où ils habitent, donc elle retrouve le paradis et ils sont bien heureux de retrouver leur paradis tous les deux.
Oui, j'y tenais à tous ces contrastes, parce que effectivement, César veut absolument l'emmener dans cette voiture, parce que, comme j'en parle dans mon livre, il lui raconte ses virées marseillaises, ses histoires. Il veut l'épater, il veut l'étonner, et quand il lui dit un jour je t'emmènerai promener sur le vieux port, il veut absolument l'emmener dans cette voiture, parce que pour lui c'est la preuve de tout ce qu'il a vécu, quoi, et tout ce qu'il lui a raconté. Et effectivement, il se promène sur le vieux port, il emmène déjeuner dans une pizzeria du panier, mais lorsqu'il rentre le soir et qu'il voit les chaînes à l'entrée de la propriété, et ces chaînes qui lui tendent leurs bras, et ils se disent, ouf, on est bien, c'est ici chez nous.
C'est ça, c'est le paradis, je l'ai dit tout à l'heure. Pour eux, c'est vraiment le retour. On a fait une incursion à Marseille, mais qu'est-ce qu'on est bien chez nous, quoi.
Oui.
Et en même temps, il y a des différences, de genre, de sexe, d'âge, etc., entre tous les deux, mais il y a une complicité incroyable, puisque César va lui apprendre le métier que lui-même a appris par ailleurs et de manière un peu particulière.
Okay, oui.
Alors, il y a aussi dans votre roman, il y a des morts, et pas uniquement Marie. Il y a des morts par accident, des morts inexpliquées, etc., etc. Il y a un côté lugubre chez vous, Martine ?
Non, pas, je ne pense pas. Mais c'est l'histoire. Bon, la mort de Marie, bon, voilà, c'est le thème du livre. Il y a la mort de Paulin, mais bon, ça existait aussi.
Et ça existe encore, malheureusement.
Et ça existe encore, ces gens qui sont restés dans leur village, sans vie de famille, sans amis, sans distraction. Bon, lorsque leurs parents disparaissent, ben, ils finissent par trop s'ennuyer et ils se suicident, quoi. Ça existe encore aujourd'hui.
Un personnage, d'ailleurs, Paulin, qui est un personnage qui est un taiseux, quelqu'un qui ne parle pas et qui est ravi, par exemple, quand un gendarme vient faire son enquête, parce qu'il dit « je vais pouvoir parler ». Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était, qu'il était véritablement en danger de mort, puisque bon, à l'époque, la guillotine fonctionnait encore en France. Heureusement, c'est fini.
Oui. Et puis, le troisième mot, ben, c'est Simon, qui meurt dans un accident de voiture. Bon, ça se produit encore aujourd'hui, malheureusement, assez souvent.
Avec une histoire d'amour en ce qui concerne Simon, une histoire d'amour et en même temps presque de très sensuelle aussi avec une femme qui a des retours de flamme, on peut dire ça comme ça, si vous me permettez, avec une veuve joyeuse en quelque sorte et donc ce personnage qui roule en déesse que tout le monde admire dans le paysage parce que c'est la seule et c'était c'est le summum des voitures dans les années 80 et 70 donc très très particulier. Au niveau de votre style, Martine, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont influencé?
J'ai beaucoup aimé Zola et ses descriptifs et ses descriptions interminables. Ensuite, bon, j'ai lu les auteurs régionaux, j'ai lu Magnan, j'ai lu Frény et je lis aussi beaucoup de Paula.
Donc on retrouve là effectivement des portraits, on retrouve des personnages, on retrouve des intrigues aussi particulières. Et vous avez choisi de nous lire un texte, un extrait, c'est une description de Marie.
Oui, j'ai choisi en fait deux passages du livre qui parlent de Marie, puisqu'en fait le titre du livre c'est Marie. Voilà, donc quand elle arrive dans la région et ensuite quand elle vit avec son troupeau.
On vous écoute.
Lorsque Marie arriva enfin au cabanon, il était tard et elle ne put apprécier pleinement le paysage. La toute petite habitation, son confort spartiate, lui laissèrent un goût amer dans la bouche, presque le regret d'être venue. Après quelques friandises vite avalées, elle s'effronda, silencieuse, sur l'unique couchage et s'endormit rapidement, épuisée par le voyage. Le lendemain, éveillée dès l'aube par les chants d'amour des passereaux, elle put enfin découvrir l'endroit où elle allait vivre. Julien la bousculait. « Viens voir les chèvres, viens voir la bergerie, la citerne. » Il essayait de détourner son attention et l'attirer hors de ce logement qui, pensait-il à juste titre, ne lui convenait qu'à demi. Lorsqu'elle verra le reste, se disait-il, le logement n'aura aucune importance. Il n'avait pas tort, elle fut conquise. Aucune habitation alentour. On apercevait à peine les toits de vieilles tuiles au craie, patinées par le temps, des bâtisses du village de Saumane, et tout au fond, semblable au bord d'une crèche, Banon niché au pied du mamelon du croc de bagne. Elle fut séduite par ce ciel bleu nettoyé de tout nuage, qui enveloppait un paysage où la végétation se mélangeait pour former au printemps une mosaïque de vert, les blés n'étant pas encore mûrs et les champs de lavande pas encore fleuris. La bergerie la laissa sans voix. Cette dentelle de pierre d'un gris foncé qui en constituait les murs et le toit, elle n'avait jamais vu cela. Comment tenait-elle ces pierres? Assemblées une à une, de formes presque identiques, sans liant. Les hommes qui avaient construit cet ouvrage les avaient cherchés, soulevés, soupesés, comparés inlassablement, fouillant la nature pour trouver à chacune son alter ego et les avaient unis pour l'éternité. Aucune ne s'était échappée. Uniquement de la pierre sèche, mais quelle splendeur.
On sent bien, Martine Bazin, c'est un extrait de Marie la Bergère que vous avez écrit. On sent bien qu'il y a une grosse dose d'observation dans vos écrits. Vous avez été fascinée par les bords, comme on dit ici.
Oui. Oui, bien sûr. Et puis surtout, parce qu'il y a le chemin des bergeries au-dessus de Somanes. Et là, on trouve des bergeries fantastiques.
Avec des personnages comme ce fameux Julien qui roule en deux chevaux fourgonnette aussi.
Oui.
Et qui a des histoires assez, assez incroyables et qui veut partager sa vie. Et en tout cas, dire à cette étrangère combien c'est beau ici, chez lui, etc. etc. Donc, Marie Labergère, malheureusement, elle finira pas le livre. Ça n'est pas la seule. Mais bon, elle illumine véritablement ce livre par sa présence, parce qu'elle cherche. Il y a une espèce de quête tout le long du livre qui est particulière. Il y a une très belle couverture sur votre livre, avec une belle photo, un champ de lavande, et puis au fur et à mesure ça devient plus évanescent et en même temps plus flou, et un joli ciel, oui. Ciel bleu, avec un livre, je l'ai dit au début et on va y revenir, qui a été réalisé par l'édition à Façon, autrement dit par Isabelle Mercier à Fort-Calquier. Comment s'est passée votre rencontre quand vous avez amené un manuscrit à des gens que vous ne connaissez, ou vous connaissiez d'ailleurs, ou vous ne connaissiez pas
Je la connaissais de réputation, oui, mais sans plus. Je n'avais jamais travaillé avec elle.
Je rappelle que l'édition à Façon, c'est... Oui. Une entreprise qui se met à la disposition des personnes qui veulent réaliser un livre comme vous-même, oui. Ou un livre de voyage, ou un livre de portrait, de souvenirs, etc. Et qu'elle, Isabelle, mais pas uniquement Isabelle, il y a Edith Morin également qui l'aide, qui sont des conseillères de talent pour pouvoir aider à réaliser un livre qui est quasiment un bébé pour vous.
Ah oui, oui, un véritable bébé, oui. Et j'ai été très heureuse de travailler avec Isabelle parce qu'on a eu une collaboration professionnelle agréable.
Quel conseil vous a-t-elle donné ?
Conseil, non, elle m'a... Non, je n'attendais pas des conseils, en fait. Ce que je voulais, c'est le voir naître. Vous parlez de bébé. Je voulais le voir naître, ce livre. Donc, voilà, je suis allée, je lui ai soumis mon texte. Et bon, on a traité. Elle ne l'a pas lu, mon livre, elle ne l'a pas lu. Et comme je vous disais tout à l'heure, je me souviens de ses paroles lorsqu'on a signé le contrat. Elle m'a dit je suis étonnée qu'un livre aussi riche que le vôtre soit publié à compte d'auteur. Mais je lui ai dit j'étais pressée, en fait. Voilà, je voulais le voir, ce livre.
Vous aviez contacté d'autres éditeurs ?
J'avais contacté un éditeur, un seul éditeur, oui.
Donc c'est un livre qu'on peut trouver dans les librairies, je suppose.
Oui. Alors il est en vente à La Carline, à Fort-Calquier, au Bleuet, à Bannon, au Reguin, à Rayanne, au Poivre d'Âne, à Manosque, à l'Arbousier, à Oraison, La Ruelle, à Digne, et au Blason, à Aix-en-Provence. Il est également en vente à la Maison de la Presse à Fort-Calquier et à l'Office du Tourisme.
Donc c'est Marie Labergère, oui. Par Martine Bazin, oui. L'édition à Façon. Vous avez également un site internet où...
Non, alors j'ai créé une page Facebook qui s'appelle Les Écrits de Martine, parce qu'en fait, les personnes qui l'ont lu m'ont envoyé des SMS ou des commentaires oraux. Et donc je les invite tous à mettre leurs commentaires sur cette page.
Vous avez un deuxième roman en préparation ?
Voilà, ce que je voulais dire, c'est que sur la page Facebook, je vais parler de mon roman, oui, qui est plus que préparé, qui est très bien avancé, donc en citant des passages et en demandant un petit peu leur avis à mes lecteurs.
C'est toujours un polar,
C'est un polar, oui, qui se passera à Fort-Calquier aussi.
Alors là, on est parti, on arrive dans le bourg, en quelque
sorte.
Oui,
voilà, oui, c'est plus près de Fort-Calquier, l'Urse, voilà.
On va attendre avec impatience, oui. La suite et donc le deuxième roman de Martine Bazin. J'étais ravie de vous accueillir. Bonne continuation, Martine Bazin, et à bientôt.
Mais écoutez, je vous remercie. J'ai été ravie aussi de venir en parler avec vous. Et j'espère qu'on pourra aussi parler du prochain ensemble.
Pas de problème.
Voilà. Merci.